Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai 5 ans et j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la clé des ondes.
Necesitas ayudar contra la sin razón, la ves a tu alrededor. A la gente le da igual porque no hay concienciación. Poderlos parar, víctima en la ciudad por tu baja condición, tu sangre es de perdedor. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción, unidos a la unión. Manipulación, se creen un ser superior. Por tu piel te juzgarán en un sucio callejón y te intentan matar. Esa superioridad siempre la han alimentado las leyes de inmigración. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción, unidos a la unión, unidos a la acción, unidos a la unión.
Devrait nous laisser tous pantois. renules tu yaya. Il y a des missiles patriotes dirigés par ordinateur, sans réfugié et Macintosh. Si tu t'étends les vers le roche, la guerre technologique fait rage. C'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Fini les temps maudits du sport, du jogging et de la cigarette. La preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt correctirac en Nintendo. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation.
J'en étais à ces réflexions quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon. Je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait, je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour. Je crois que mon radar a ion. Enfin mon tas sorti de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition.
Et on commence à raisonner.
Calmement.
Bonsoir. Vous êtes sur la clé des ondes et vous êtes avec l'émission Achaïra qui est animée un jeudi sur deux par le cercle Jean Barué de la Fédération anarchiste. Alors ce soir, autour de la table, il y a beaucoup de monde. On peut se présenter.
Philippe.
Brigitte.
André.
Bonsoir.
Guillaume.
Philon.
Alain, bonsoir. Donc, aujourd'hui, après les éphémérides, nous allons discuter avec des membres du CRSP, le Comité pour la régularisation de tous les sans-papiers, qui vont nous présenter la campagne qu'ils sont en train de mener, qui se mène à Bordeaux, mais qui se mène également au niveau national, je pense. Enfin, ils nous préciseront ça. Et ensuite, donc, nous traiterons de l'actualité. Alors, on va parler de la décroissance, du vote des députés de Europe Écologie au Parlement européen. Philo nous parlera également de la lutte des précaires.
Oui. Mobilisation la quinzaine de mobilisation des chômeurs et des précaires qui se termine à samedi.
Ensuite, André nous présentera un ouvrage d'Edouard Jourdain au sujet de Proudhon. Puis, ce sera l'heure de l'agenda et de la prise des rendez-vous. Pour les événements à venir. Voilà. Donc on commence par les éphémérides. Vous rappelez l'année dernière, à cette époque-là, au mois de décembre, en Grèce, On a beaucoup parlé des émeutes. Le 6 décembre, c'était le décès d'Alexis, le jeune de 15 ans qui avait été tué par la police. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en Grèce, cet événement a été vécu dans la filiation d'événements antérieurs à l'histoire de la Grèce, et plus précisément par rapport au 3 décembre 1944. À cette époque-là, les Allemands avaient quitté la Grèce, et la Grèce se trouvait donc sous domination de l'armée anglaise, avec un gouvernement, disons, d'union nationale. Et le 3 décembre, il y a eu une énorme manifestation populaire qui a dégénéré, la police a tiré. Et à partir de ce moment-là, l'organe principal de la résistance grecque, c'est-à-dire le Parti communiste grec, a fait le choix d'entamer une lutte armée. Et la guerre civile en Grèce va durer pratiquement 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1949. Et ensuite, bon, il y a eu la dictature des colonels. De nouveau en 2008, des émeutes. En fait, on a parlé en 2008 d'un malaise social qui est réel, c'est sûr. Mais les jeunes Grecs qui se sont révoltés, dont les plus jeunes avaient 13 ou 14 ans, ce qu'on n'avait jamais vu, même en 74, dans l'inconscient collectif des Grecs, l'histoire de la suite de la Deuxième Guerre mondiale n'a jamais été soldée, en fait. On peut dire que ils ont le souvenir de ce moment-là de leur histoire marque encore, hein, que ce soit en 73, ou en 2008, un rendez-vous manqué et un dialogue impossible entre le personnel politique en place et la police, bien sûr, et la population grecque, et plus particulièrement les jeunes manifestants. Voilà. Donc c'était il y a un an en Grèce, mais c'est une histoire qui remonte à beaucoup plus loin. Philo, tu as...
Alors, oui, donc moi j'avais un portrait d'un décédé. Donc c'est le 3 décembre 1969 que meurt Lucien Ansart à Brive-la-Gaillarde, qui est en Corrèze. Ce militant propagandiste anarchiste est aussi libre-penseur. Il naquit donc le 11 juillet 1893 à Saint-Quentin dans l'Aisne, et en 1914 il est fait prisonnier par les Allemands lors de l'occupation de Saint-Quentin. Après la guerre, il deviendra correcteur d'imprimerie à Paris et fréquentera les libertaires qui tentent alors de se réorganiser. En 1919, il sera trésorier de la Fédération communiste anarchiste, qui est alors reconstituée, et il collabore au journal Le Libertaire. À partir de 1921, il assistera au congrès de l'Union anarchiste UA, et il deviendra administrateur du monde libertaire. En 1924, il lance un éphémère bimensuel où toutes les opinions anarchistes peuvent s'exprimer. Cette revue s'appellera L'idée anarchiste. En 1926, il rejoint la revue du docteur Pierrot qui s'appelle Plus loin. Il en sera le gérant de 1931-1939. En 1930, il a des problèmes de santé et il devient marchand forain. Enfin, c'est la raison de sa conversion professionnelle. Il sera plus tard, vers 1934, condamné à 4 mois de prison parce qu'il a fait traverser en auto la frontière franco-catalane à des fugitifs. Du 30 octobre au 1er novembre 1937, il est délégué à Paris au Congrès des anarchistes qui voit la création de la section française de SIA, un organe qui veut dire Solidarité internationale antifasciste et qui a été un élément important de soutien aux antifranquistes et à tous les réfugiés. Il est arrêté en 1939 et il sera interné jusqu'au printemps de 1941. Il aurait ensuite établi une filière pour faire passer clandestinement la frontière espagnole avec des activistes et ravitailler l'Espagne antifranquiste, le groupe l'Espagne antifranquiste. À la libération, il reprend son activité de marchand forain à Brive-la-Gaillarde et deviendra ensuite le président de la Libre Pensée. Voilà une activité, une vie bien remplie.
On enchaîne avec un morceau de musique.
On enchaîne avec un morceau des Berruriers Noirs.
Oui.
Oh mon frère, salut à toi peuple mer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit Indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle ardent, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemand, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le montpellien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain, salut à toi le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi le Chiléen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Mongolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le Portoricain, salut à toi l'Afro-Polta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le Destiny, salut à toi le Che Guevara. Salut au comité du soldat, salut à tous les hommes libres, salut à tous les amassés, salut à toi la Versaca, salut aussi à la Panda, salut à toi le Feuille Anarchie, salut à toi le King Comedy, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandini, salut à toi le Mozambique, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi toi t'es malade, salut tes chassiers compassants, salut à toi le Chantopan, salut à toi Pop Canal. Salut à toi, c'est Costolai, salut à tous les dragons, salut à toi, qui est ce con, salut à toi, Jean de Mathias, salut à toi, le Coptopac, salut à toi, qui est au violon, salut à toi, et mon fond, salut à toi, le Costa, salut à toi, le Costa, salut à toi, le Salvador, salut à toi, le Monogoy, salut à toi, le Chinois, salut à toi, le Taïrois, salut à toi, l'Espagnol, salut à toi, le Ramachon, salut à toi, le Hongrois, salut à toi, l'Irondois, salut aussi à tous les potes, les limotiques jusqu'à l'époque, salut à tous tous les amis, salut à ta jeune garde rouge, salut à toi le peuple fort, salut aux filles du Réunion, salut à toi la Machinerie, salut à Jorel et Arty, salut à toi Poste Nomad, salut à tous les Yamawas, salut à Soupé et Erticol, salut aussi à Young Rider, salut à toi dans le café, salut Sotex, il faut lancer. Salut à toi, Roger Després, salut à toi, Laurent Dimanche, salut à tous les paysans, salut aussi à mon enfant.
êtes sur la Clé des Ondes et vous écoutez Achaïra, l'émission animée par le Cercle Jean Barué de la Fédération Anarchiste. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 05 56 50 69 99 ou nous écrire à cercle-jean-barué@fédération-anarchiste.org. Donc on rentre dans le cœur de l'émission avec ce soir donc des membres du CRSP, c'est-à-dire le collectif pour la régularisation de tous les sans-papiers, collectif bordelais, qui existe depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc ce collectif est à l'initiative d'une campagne d'information, de sensibilisation, et d'action. Alors, où en est cette campagne? Comment vous menez tout ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ouais. Bah d'abord, en fait, on va peut-être revenir sur ce qu'est le CRSP, sur ce collectif. Donc, c'est un collectif qui est né à l'automne 2007, en fait, suite à une grande mobilisation qu'il y a eu autour de l'arrestation, en fait, à Bordeaux, d'un militant sans papier de Montreuil. En fait, préalablement à la constitution du CRSP, il y avait déjà des militants au sein du RESF qui voulaient en fait créer un collectif qui aurait vocation à soutenir en fait tous les jeunes majeurs, les adultes sans enfants scolarisés, tous les sans-papiers. Et donc le soutien en fait qui a été apporté par un certain nombre d'individus aux militants de Montreuil qui étaient descendus soutenir leurs camarades a permis d'accélérer en fait la structuration de ce collectif et ce collectif a fait sien en fait 2 revendications, la régularisation de tous les sans-papiers et la liberté de circuler. Donc en fait ce collectif milite non pas sur au cas par cas ou il milite pas en fait pour une immigration choisie. La remise en question est globale et en fait s'attaque au système politique qui organise en fait la migration, qui organise l'exploitation des hommes et qui permet de différencier les bons et les mauvais. Et cette critique exercée par le CRSP en fait le conduit à avoir un ensemble de revendications qui sont solidaires les unes des autres puisque l'une ne peut être envisagée sans l'autre puisqu'elles sont toutes liées à un même système de fonctionnement. Donc ces revendications sont assez simples. C'est d'abord la fin de la France-Afrique et de l'ensemble des politiques étrangères occidentales qui a pour but de maintenir les dictatures et les inégalités dans les anciennes colonies, l'abrogation des normes qui régissent à la fois l'entrée des immigrés et leur séjour en France et en Europe, la fin de la répression contre les sans-papiers et contre les gens qui les soutiennent, la fermeture de tous les centres de rétention, et enfin la régularisation de tous les sans-papiers et la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Donc voilà en fait quelles sont les bases de fonctionnement du CRSP. C'est un collectif qui se donne pour objectif en fait de principalement d'informer et de mobiliser la société sur ces questions-là. Et il a pour objectif de soutenir les luttes de sans-papiers et d'essayer de créer une résistance organisé autour face aux questions des sans-papiers et aux questions qui y sont liées. Donc un petit point sur son mode de fonctionnement, c'est un collectif qui regroupe en fait des personnes assez différentes, à la fois des individus et quelques organisations. Il y a notamment dans les organisations le GAB, le groupe anarchiste bordelais, Sud Éducation, la CNT Santé Sociale et la CNT Syndicat des Travailleurs de l'Éducation 33. Et donc ces différentes personnes et ces différents groupes se sont en fait retrouvés autour d'un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement basé sur la collégialité. Et voilà, donc on fonctionne en collectif, des décisions sont prises collectivement lors d'AG régulières, une fois par mois. Et voilà, et on tient des tables de presse, etc., etc.
Autrement, est-ce que vous avez des liens avec d'autres collectifs sur la France ou ailleurs ?
Bah, des individus, le CRSP en lui-même lutte quand même principalement à Bordeaux parce que c'est là qu'il est le plus efficace et le plus à même de mener une lutte. Après, des individus et les organisations du CRSP entretiennent ou peuvent entretenir des contacts avec d'autres gens, d'autres groupes qui luttent sur ces mêmes questions-là, a priori d'une manière similaire ou en tout cas avec lesquels on se retrouve sur les mots d'ordre et sur la critique adressée à cette société. Voilà.
Oui, tu parlais du soutien aux luttes des sans-papiers, qui est on parle justement de luttes qu'il y aurait eu sur Paris et sur Bordeaux. Quelle est la réalité des luttes de sans-papiers, quoi, de la question de comment vous appréhendez la question de l'organisation des sans-papiers eux-mêmes? Votre réflexion là-dessus sur les.
A priori, le CRSP, est favorable aux luttes des sans-papiers, aux actes d'émancipation des individus par eux-mêmes. Ils sont les plus à même de savoir pour eux ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc le CRSP n'a pas pour objectif d'organiser les luttes de sans-papiers. Par contre, il se fixe comme objectif de les soutenir. Voilà. Donc par exemple, il y a un collectif de travailleurs sans-papiers à Bordeaux. Nous n'y sommes pas en tant que CRSP, mais nous entretenons des liens de solidarité. Voilà. Je sais pas.
Je sais pas, non. Voilà, moi j'aurais juste posé. C'était comme c'est anecdotique. Dans le fonctionnement, tu parlais de collégialité. C'était juste pour savoir qu'est-ce que tu mettais sous ce terme de. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Bah, c'est que, en fait, au sein du CRSP, il n'y a pas d'instance séparée. C'est-à-dire que le CRSP décide tout pour le CRSP. Fonctionne par mandat avec des assemblées générales qui sont décisionnelles. Voilà, donc en fait on se réunit une fois par mois et ces assemblées générales auxquelles sont envoyés les mandats des organisations et les individus qui peuvent être là prennent les décisions qui concernent le CRSP.
Tu veux dire que les décisions sont prises à l'unanimité?
Au consensus, en tout cas. Voilà. Pratique pas le vote, on préfère se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement qui nous convient à tous.
Est-ce qu'on peut avoir l'idée d'un chiffre, d'un nombre de cas de sans-papiers sur Bordeaux?
Un nombre, moi je pourrais pas en dire, et si j'en disais, je pense que je dirais une bêtise. Deux raisons assez simples, c'est que d'abord, toutes les situations de domination. Un peu similaire, c'est que déjà, il y a les situations dont on a conscience, puis il y a toutes les situations dont on n'entend pas et on n'entend pas du tout parler. Donc, ce serait vraiment très difficile de dire. Quoi. Ce serait vraiment très difficile. Après, par exemple, on peut donner des chiffres en France. On peut donner des chiffres sur la France. Par exemple, chaque année, il y a 30, plus de 35 000 personnes, par exemple, qui passent par des centres de rétention. Voilà. Donc, sur un an, divisé par 365, ça fait 100 personnes sans papier qui passent par jour par un centre de rétention, qui peuvent y rester un certain nombre de temps. Mais ça, on va peut-être y revenir un peu plus tard. On va faire un point sur la campagne qu'a initié le CRSP sur la lutte contre les centres de rétention.
Musique.
Petite musique alors. On y va?
Oui.
Oui.
chien roule à la ronde. Je suis prince sur la map monde. Y a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y a pas de pays si tu le veux.
Le Paris est beau quand chantent les oiseaux. Le Paris est laid quand il se croit français.
Le Paris est beau quand chantent les oiseaux. Le Paris est laid quand il se croit français.
Qui vont bientôt partir
vers leur pays, les chiens.
On a tout pris, il n'y a plus rien.
De rétention, calme de fond, j'en ai même oublié mon ombre. Je promène moi dans vos décombres. On m'a donné un bout de rien, j'en ai fait 100 000 chemins.
J'en ai fait 100, j'en ai fait 1. Un chemin de l'identité, l'identité, l'identité,
l'identité,
à la ronde.
Et dans ce flot du Nigérian, je n'ai plus de nom, je n'ai plus rien.
Dis-moi c'est quand,
dis-moi c'est quand,
que tu reviens.
Je parie beau quand chantent les oiseaux, je parie le quand ils se croient français.
Je parie beau quand chantent les oiseaux, je parie quand ils se croient français.
Ces chantiers,
et tous ceux qui lui tirent,
ils disent pas que les lapins,
c'est qu'ils grossent le CD.
Tu m'as manqué des missiles solaires ou des scuds. Et moi, avec mon pistolet à bouchon, je pars au front.
Beau, on chantera les oiseaux. Paris sera beau si les oiseaux me montrent. Paris sera beau car les oiseaux. Allez, Paris sera beau.
Vous êtes sur la Quai des Ondes et vous écoutez l'émission Achaïra. Donc on va poursuivre après la présentation du collectif pour la régularisation de tous les sans-papiers. On va maintenant voir le contenu de la campagne que vous avez initiée donc sur Bordeaux.
Ouais. Et ben d'abord on va peut-être commencer par un événement qui s'est passé à Bordeaux en fait et qui a pu être remarqué ou pas. C'est le 19 janvier 2009, en fait, le centre de rétention administrative, donc un CRA, qui était situé dans les sous-sols du commissariat de Mériadec, a brûlé. Suite à cet événement, en fait, plusieurs personnes ont été accusées d'avoir provoqué l'incendie et ont été maintenues en détention préventive depuis bientôt un an. Et donc là, actuellement, ils sont à la prison, à la maison d'arrêt de Gradignan. Donc après cet incendie, le CRA a été fermé. Et actuellement, il y a donc un nouveau projet de centre de rétention dans les sous-sols du commissariat de Mériadec. Et notamment, un appel d'offres pour les marchés publics a été passé en novembre. On ne connaît pas encore qui sera sélectionné. Mais voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau projet de centre de rétention à Bordeaux est prévu. Peut-être, en fait, pour expliquer plus précisément ce qu'est un centre de rétention, en fait, c'est un lieu d'enfermement où l'administration maintient les étrangers qu'elle souhaite expulser. Ces individus sont retenus, c'est un centre de rétention, et c'est pas un centre de détention, au sens où, en fait, où ces personnes sont placées dans le centre par une décision administrative et pas par une décision judiciaire. Donc si officiellement les personnes qui sont placées en centre de rétention ne sont pas en prison, dans les faits, ils sont quand même privés de leur liberté. Donc en France, la durée moyenne, la durée légale de rétention est de 32 jours maximum. Ce qu'il y a, c'est que l'Europe a adopté une directive qui prévoit en fait une durée maximum de rétention d'un an et demi. Et cette directive, comme toutes les directives européennes, en fait, peuvent être appliquées assez rapidement par un vote du Parlement. Donc combien est-ce qu'il existe de CRA en France? Il en existe 25. Et ça, a priori, c'est sans compter ceux qui sont en construction et tous ceux en fait qui peuvent être créés au gré des besoins des préfectures et qu'on appelle des locaux de rétention administrative. Voilà, et donc comme on a pu le dire tout à l'heure, en 2007, plus de 35 000 personnes sont passées, ont été retenues dans des centres de rétention. Donc face à cette situation qui nous apparaît inacceptable et au niveau européen aussi, mais plus largement aux frontières de l'Europe, on voit que les gens s'organisent et les gens luttent contre la manière dont on entend organiser leur vie et voilà. Donc il y a tout un tas de modes de lutte qui sont mis en place. Par exemple, à l'intérieur des centres de rétention, on peut par exemple remarquer qu'il y a des révoltes, des incendies, des grèves de la faim. Les sans-papiers refusent de se soumettre aux expulsions. Les sans-papiers refusent de rentrer dans leurs cellules, refusent d'embarquer dans l'avion. Et d'autres choisissent, sont poussés à d'autres modes de résistance, essayent les mutilations, les tentatives de suicide et les suicides qui se terminent par une mort. À l'extérieur aussi, on constate tout un tas de manifestations, alors que ça va de la manifestation, de la sensibilisation, de la diffusion de témoignages, de l'information sur ce qui peut se passer dans ces locaux. L'organisation de collectifs, tout un tas de mesures en fait sont prises par les gens face à cette situation qui n'est pas acceptable. Donc le CRSP aussi en fait a voulu organiser une campagne pour la fermeture de tous les centres de rétention parce que il nous semble effectivement que ça peut pas fonctionner comme ça et que essayer de trier les sans-papiers, de savoir lesquels sont les bons et les mauvais, essayer de savoir qui a le droit de vivre où, essayer c'est toujours prendre des problèmes par leur fin et jamais questionner qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent, comment est-ce qu'ils se déplacent, d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils réussissent à venir ici, qui produit ce qui fait que les gens se déplacent, etc. Donc, nous, notre positionnement est évidemment donc l'interrogation des causes, leur critique, et la condamnation ferme des mesures qui sont mises en place pour camoufler en fait des politiques inégalitaires, d'exploitation des êtres humains et de répression de toute de toute aspiration à la liberté. Voilà, donc c'est le CRSP donc a été rejoint par d'autres organisations, notamment Alternatives Libertaires, et par des individus. Et ensemble, on organise donc cette campagne pour la fermeture inconditionnelle de tous les centres de rétention. Donc cette campagne est animée en fait est organisée autour de trois mots d'ordre principaux. C'est d'abord la fermeture de tous les centres de rétention parce que l'enfermement n'est pas acceptable quelles que soient les conditions dans lesquelles les gens sont enfermés, que les gens soient 10 ou seuls dans leur cellule, ils restent enfermés, même si évidemment la détention est peut-être beaucoup encore plus difficile quand les gens sont 10, mais c'est pas forcément vrai parce que d'autres logiques peuvent rentrer en compte. Que cette campagne est aussi organisée autour de l'idée de l'ouverture des frontières, c'est-à-dire que nous exigeons que les gens puissent librement circuler, s'installer là où ils ont envie de vivre, de manière personne n'a le droit de dire à un autre tu n'as pas le droit de vivre ici parce que tu n'es pas d'ici ou quoi ou qu'est-ce. Et enfin nous exigeons enfin l'égalité des droits pour toutes et tous, c'est-à-dire quelle que soit la nationalité des gens, quel que soit leur statut administratif, avec ou sans papier, voilà.
Donc quand est-ce que la campagne va commencer véritablement? Donc,
la campagne en fait va commencer le vendredi 11 décembre par une manifestation nocturne, et donc le rendez-vous est à 19h30 à la place Stalingrad. C'est donc sur un arrêt du tram A, direction Floirac et ses rives droites. Et cette manifestation nocturne entend rendre visible ce problème-là. Et donc c'est pour ça que on a pensé faire une manifestation bruyante où les gens pourront venir de manière à être visibles, voilà. Que les gens qui viennent et qui ont envie de venir amène de quoi faire du bruit, de quoi être visible, fluo, comme ils l'entendent.
Une nocturne et visible, c'est compatible j'ai la raison du choix d'une manif nocturne.
L'idée d'une manifestation nocturne, c'est que le 11 décembre est une date qu'on trouvait appropriée pour commencer la campagne, et tout simplement une raison pratique, c'est que le vendredi après-midi, les gens peuvent pas venir à une manifestation, donc le plus simple, c'est de faire une manifestation en fin de soirée, en début de soirée et fin d'après-midi.
Voilà. Vu la saison, il fera nuit.
C'est l'occasion d'apporter des lumières, des torches, ce que les gens veulent.
Autrement, j'aurais juste une question par rapport aux liens qui ont pu être faits par rapport aux événements à Calais. Est-ce que il y a eu des liens, des contacts, des soutiens?
Donc il y a plusieurs éléments. D'abord, au niveau des contacts, le CRSP s'informe et diffuse de l'information sur la situation des sans-papiers. Donc évidemment on peut diffuser des informations sur ce qui se passe à Calais. Récemment, il y a eu un village autogéré organisé par des militants du Nord et d'Angleterre. C'était un village No Border qui a eu lieu donc fin juin 2009, et qui avait pour objectif de visibiliser la situation des migrants à Calais, les conditions de vie dans lesquelles ils peuvent être acculés à vivre, pourchassés quotidiennement par la police, sans douche, dans des conditions très difficiles pour se nourrir, voilà. Donc le CRSP en tant que tel n'y est pas allé parce que il avait pas forcément vocation à le faire. Après, les gens ont pu y aller, en fonction.
Tu
leur disponibilité.
Tu peux donner une adresse postale ou internet
pour le CRSP. Pour demander,
oui.
Oui, oui, bien sûr. Alors, pour le CRSP, il suffit de, c'est CRSP-Bordeaux, taper dans un moteur de recherche CRSP Bordeaux et ce sera la première adresse. Après, pour la campagne, il y a une adresse mail et un blog. Donc, le blog, c'est www.anticrabdx.blogspot.com. www.anticrabdx.blogspot.com. Voilà, donc sur ce blog, en fait, les gens qui animent cette campagne vont diffuser de l'information pour tenir informés les gens de ce qui est organisé, des événements, etc. Après, on peut en fait déjà vous donner les rendez-vous auxquels les gens sont invités. Donc, il y a deux rendez-vous. Chaque semaine hebdomadaire. Donc le premier, c'est des rendez-vous entre guillemets d'action qui sont donc tous les samedis à 15h à la place de la Victoire. Et là c'est l'occasion de se rencontrer, de faire diverses actions, d'aller tracter en fonction de ce qui aura été organisé. Et en fait, l'organisation de ces actions se déroule chaque mardi à 19h30 à l'Athénée Libertaire, qui se trouve au 7 rue du Muguet. Et là, on parle et on débat sur les futures actions à mener et comment elles vont se dérouler, etc. etc. Voilà, donc deux rendez-vous, le mardi à 19h30 à l'Athénée Libertaire au 7 rue du Muguet, pour organiser et définir les actions, et tous les samedis à 15h à la place de la Victoire pour justement les mettre en place. Voilà. Voilà, je sais pas si vous avez
des réactions. Non.
Si. Donc on peut aussi déjà, vous inviter donc le lendemain du 11 décembre, donc le 11 décembre à 19h30 à Stalingrad, se déroulera la manifestation nocturne d'ouverture de l'Ukraine. Le lendemain à 15h à la place de la Victoire, il y aura le premier rendez-vous d'action. Et à 17h, le même jour, donc le 12 décembre, il y aura à l'Athénée Libertaire un débat organisé par la librairie du Muguet autour d'un livre qui s'appelle L'ennemi intérieur, écrit par Mathieu Régouste, et qui retrace en fait l'histoire de l'ordre sécuritaire actuel. Et il fait en fait un détour par la criminalisation à la fois des mouvements sociaux et de l'immigration qui ont en fait permis de catégoriser les gens et de développer tout un tas de mesures à leur encontre. Voilà, donc à 17h à l'Athénée Libertaire.
D'accord. Bien. Je crois que il y a plus de réactions.
De musique. Sujet, on peut en parler des heures.
Voilà.
Le sujet est loin, malheureusement, loin d'être épuisé.
Oui, c'est sûr. Après, le plus simple quand même pour nous rencontrer, c'est de venir ou d'aller sur le site anticrabdx.blogspot.com ou d'aller sur le site du CRSP. Et le CRSP tient aussi des tables de presse le samedi matin à Saint-Michel. Donc c'est des diverses occasions pour nous rencontrer, venir discuter et pourquoi pas s'organiser et voir ce qu'on peut faire ensemble.
Ok, merci.
Merci.
Et un petit clin d'œil à la manifestation nocturne
c'est la bonne vitesse.
Du 11 novembre, du 11 décembre.
immeuble d'un quartier populaire. Sous les pavés, c'est la plage du coin de la rue, on voit la mer.
Il y en a qui viennent de tous les coins du monde.
Ouais.
Fils et fils d'ouvriers venus chercher l'Eldorado.
Pas d'avenue, pas d'or, mais le bitume a eu raison de leur rêve.
Et la mer, tu leur as rongé un peu la peau.
Comment expliquer qu'ici, on ne sourit pas, en tout cas pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Ce constat peut paraître un peu pessimiste,
mais le droit, de l'aucune façon, faire de l'ombre au soleil quand il éclaire nos émotions. Dans la cour de l'immeuble, le dimanche après-midi, on se trouvait pour papoter, c'est au cœur d'entre amis. Tu raquilles les loups, des tapas, des jus fruits, dégueulasse pas tout de la musique et du bruit.
Le temps pouvait s'arrêter.
Ça ne nous gênait pas le moins du monde.
On dévorait insatiablement chaque minute, chaque seconde. Pas une seule miette ne devait rester au fond des plats. On parlait scolarité en mangeant avec les doigts.
Il est coup,
clandestin,
comment dire,
sans papier.
À 12 ans, ces mots m'étaient totalement étrangers.
On a grandi ensemble,
et le sang qui coule dans leurs veines ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui coule dans les miennes.
C'est quoi ces cris?
C'est quoi ces pleurs? Ils ont plus de qu'il faut. Pourquoi rester si le taureau?
Plus d'épices,
plus de mafé,
plus de jus de fruits,
plus de parties de foot dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit.
Plus d'odeurs soucis.
Mais maintenant y'a des caméras.
Dans la cour, plus rien ne pousse.
C'est le terrain de jeu des rats.
Dans la cour de l'immeuble, le dimanche après-midi, plus d'amis, plus rien ne se passe, le barbecue a moisi, juste une trace qui l'attend, le quartier était en vie, et derrière les murs, elle donne encore, de la musique et du bruit, de la musique et du bruit, de la musique et du bruit, de la musique et du bruit.
Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 et vous écoutez l'émission Achaïra, animée par le Cercle Jean Barué de la Fédération Anarchiste. Donc après cette présentation du CRSP, des actions futures de la campagne contre les centres de rétention, de toute façon nous vous rappellerons à la fin de l'émission les différents rendez-vous pour ceci. Donc maintenant, on rentre dans l'actualité et Philippe va nous parler de la décroissance.
Donc c'est par rapport à un numéro spécial qui est sur le monde libertaire du du 3 au 9 décembre sur l'idée d'une décroissance libertaire. Le bilan humain se révèle désastreux. En effet, l'augmentation du PIB n'a pas engendré d'amélioration du bien-être des populations. Les inégalités sont devenues exorbitantes. Le bilan écologique est désastreux, tout acte de consommation est un acte de construction. Les gens prennent conscience des dimensions finies de la Terre, de la dépendance des économies vis-à-vis du pétrole, de la vulnérabilité des écosystèmes. Pour ce qui est de l'empreinte écologique, la nature est sollicitée au-delà de ses capacités de régénération. La croissance économique n'est plus possible. Il faut remettre en question nos modes de production, de consommation et de distribution, en renonçant au productivisme et au consumérisme individualiste. Une croissance illimitée est impossible dans un monde limité. La décroissance passe par le respect du rythme de régénération des ressources renouvelables, la relocalisation de l'économie, la sobriété énergétique, le recyclage des matériaux, le développement des énergies renouvelables. Le capitalisme engendre un gâchis considérable sur le plan écologique, pénurie d'eau, déforestation, déchets, dégradation des terres cultivables, dérèglement climatique, perte de biodiversité. Sur le plan humain, ça amène à une solitude, à une angoisse, un mal-être, des phénomènes de stress, état dépressif, repli sur soi. Le capitalisme, fondé sur l'accumulation du profit maximal dans un temps minimal, ne peut prendre en compte les intérêts écologiques à réfléchir sur le long terme. Face au fonctionnement cyclique de la nature, le capitalisme épuise les stocks naturels. La décroissance passe par une rupture face à l'État qui protège la propriété privée, finance la recherche, développement au profit de la grande industrie, vole au secours des banques ou des multinationales, accentue le contrôle social, criminalise les mouvements sociaux, entrave la circulation des personnes, harcèle ceux qui ne se soumettent pas à ces dogmes. Le capitalisme instrumentalise l'État. Avant la crise écologique, les anarchistes dénonçaient déjà le capitalisme. La crise est un argument décisif pour l'éliminer. La solution ne passera pas par le parlementarisme, par un supposé développement durable, ou par une croissance verte ou une moralisation du capitalisme. La relance économique supposerait une aggravation de la dette écologique. Seule une révolution libertaire peut libérer l'homme. Celle-ci passera par une réappropriation, par producteurs et habitants de leur avenir, une reprise en main de l'économie et la gestion des cités.
Alors, puisqu'on parle d'écologie, on pourrait attendre des écologistes quand même certaines choses, oui, qu'ils clament bien fort. Alors, bien sûr, il va s'agir là d'une certaine catégorie d'écologistes, ceux qui se font élire au Parlement européen et donc ceux qui votent aussi pour eux. Donc ce 25 novembre 2009, le Parlement européen a adopté une résolution à 76% des voix. Cette résolution entérine la volonté de mettre en œuvre un marché du carbone mondial. Son objectif, c'est de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport au niveau de 90. L'extension du marché carbone, qui jusque-là était réservée à l'Union européenne depuis 2005, va permettre aux multinationales européennes d'investir dans de nouvelles techniques pour compenser au sud leurs émissions industrielles au nord. Parmi ces nouvelles techniques, il y a le nucléaire, une agriculture de conservation dont certains OGM, la préservation de la forêt, parfois souvent aux dépens des populations qui y vivent, la capture et la séquestration de carbone figurent sur la table des négociations de Copenhague. La droite, les néolibéraux, la gauche social-démocrate ont très largement voté pour, et plus surprenant, peut-être, la grande majorité du groupe écologiste également. D'ailleurs, la direction du groupe a rappelé à l'ordre, a essayé de rectifier le tir, et on a eu droit à des justifications tortueuses, en disant que, bon, finalement, il s'agissait pas... Bien sûr, les écologistes sont contre le nucléaire, mais que c'était important qu'au niveau européen, il puisse y avoir quand même cette réduction des effets de serre. Voilà, un compromis complètement catastrophique, quoi. Pour des gens qui se revendiquent comme écologistes purs et durs. Enfin, déterminé, quoi, au moins. Donc, voilà, je pense que les gens qui ont voté ou qui vont voter bientôt, je pense que c'est un groupe qui va se présenter au régional, hein, non ? Oui, oui, il me semble. Hein. Donc, voilà, il faut savoir de quoi sont capables les députés, c'est-à-dire, ben là, moi j'appelle ça tourner sa veste, tout simplement, une fois de plus. Voilà.
La réelle politique façon génération écologie.
Voilà, tout à fait.
Mais sachant que je crois que ce pas avait été franchi déjà par d'autres écologistes dans d'autres pays, hein, qui eux revendiquaient véritablement leur volonté de développer le nucléaire. Donc, ce n'est pas une première.
C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Enfin, la captation du carbone, c'est quelque chose d'absolument délirant, quoi.
Ils ont voté comme un seul homme ou il y a des exceptions ?
Alors, il y a une exception. Le moustachu, José Bové.
Je confirme la règle.
Ah, bon.
N'a pas pris part au vote, ouais.
Voilà. Ah, il n'a pas pris part.
Non, il n'a
pas. Il n'a pas voté contre.
Ouais, je crois, hein, sous réserve. Alors, il y a deux choses. Il y en a un qui n'a pas pris part au vote et l'autre qui s'est abstenu. Ouais, je ne sais pas qui a voté contre. Je ne sais plus. Mais la grosse majorité du groupe a foncé droit devant. Voilà. Où nous en sommes.
Est-ce que juste à faire un commentaire et puis en termes de rendez-vous, c'est qu'à la fois le lien entre les deux débats, c'est que il y a en ce moment justement une démobilisation par rapport au sommet de Copenhague justement sur les questions d'environnement, et que pour un certain nombre de personnes, cette situation qui est prévue comme importante, c'est un moyen de s'interroger sur la façon dont marche notre rapport à la production et rapport au monde, et donc se dire comment on remet en cause. Et donc de fait, là on voit que ceux qui ont choisi le nucléaire, bien d'une certaine façon, c'est une démarche qui peut appeler effectivement de capitalisme vert ou de développement durable, c'est-à-dire on évite aujourd'hui effectivement ce qui est peut-être des facteurs de continuer à produire autant, mais effectivement en dégageant moins aujourd'hui de CO2, mais en remettant pas en cause le mode de production. Et voilà, sur le débat sur la taxe carbone. Donc, on peut en profiter pour annoncer qu'il y aura, du 5 au 12, il y a des mobilisations à Copenhague. Et elles seront reliées, enfin du 7 au 18 apparemment, il y aura le sommet mondial sur le climat, dont a priori il semble que va sortir la taxe carbone, enfin des choses comme ça, et toute une économie, une marchandisation du carbone. Et donc il y a un certain nombre de mobilisations à Bordeaux qui ont été faites par le collectif girondin, qui s'inscrit dans le cadre national du collectif Urgence climatique Justice sociale, donc qui essaye de mettre les deux axes en parallèle. Et donc les rendez-vous à Bordeaux, ça sera le 5 décembre, place de la Comédie, pour une action flash, pour faire du bruit. Donc, réveiller les chefs d'État avec pour l'ouverture du sommet de Copenhague. Le mardi 18, donc c'est Boulevard des Potes, 19h, le film Climat en crise avec un débat sur les enjeux climatiques. C'est rue Bergeret. Le jeudi 10 décembre à l'Athénée municipale à 19h, c'est la Confédération paysanne qui invite à un débat, une conférence débat sur l'agriculture dans le changement climatique. Donc c'est à l'occasion du sommet de Copenhague. Comment assurer une production agricole répondant aux besoins alimentaires et écologiques dans un climat bouleversé tout en réduisant radicalement les dégagements de gaz à effet de serre. Et donc sont prévus comme intervenants Didier Guimal, qui est chercheur à Météo France, Antoine Kremer, qui est directeur de recherche en biodiversité forestière à l'INRA, Thomas Nesne, qui est ingénieur agronome, Michel Berrocoy-Rigouin, paysan et membre de LB, qui est le syndicat basque de la Confédération Pays Basque, paysanne du Pays Basque. Et voilà, et donc c'est une invitation à se mobiliser aussi, très libre. Donc ça c'était... Ensuite, il y aura, en termes de mobilisation, il y aura le 12 décembre, en soutien à Copenhague, un rassemblement au miroir d'eau, donc qui est sur les quais à Bordeaux, à 11h, qui sera suivi d'un défilé, d'une déambulation dans les festives dans les rues de Bordeaux. Il suit une veillée au Grand Théâtre, apparemment. Et le lundi 14 décembre, à 20h30, salle de la glacière à Mérignac, il y aura la représentation de la pièce Facteur 4 par l'association TACA, TACA en référence à l'abréviation de la taxe carbone. Voilà. Ça, c'était le...
Bon, compléter le... Bon, un peu dans la suite, je voulais pas dire juste un petit mot du procès d'AZF. Oui. Donc le 19 novembre, c'était le résultat des délibérés. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant une heure, le président a accusé non pas Total, mais la filiale de Total, c'est-à-dire qui s'appelle Grande Paroisse, d'avoir commis des fautes d'organisation, des manquements à des obligations de sécurité, des tromperies de la part des experts. Dans le cadre d'une pseudo-enquête interne, et au bout du compte, il n'y a rien. Le juge a prononcé la relaxe au bénéfice du doute. Donc, Grande Paroisse, filiale de Total, se retrouve responsable au plan civil, sans être coupable au plan pénal. Le juge a l'intime conviction que... de la culpabilité de Total, mais il manque la preuve quant à la cause réelle de l'explosion. Et cette preuve, bien sûr, est d'autant plus difficile à trouver que maintenant le temps a passé et que, surtout aussi, Total a fait mener une enquête interne qui n'a fait que brouiller les pistes pour la justice et pour faire ressortir quelque chose de net. Voilà. Alors, l'histoire du plan pénal, on ne peut pas comprendre comment Total puisse considérer ne rien avoir à se reprocher, mais a consenti à indemniser les victimes aux civils pour 2 milliards d'euros. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Hein. Le résultat de ce jugement à Toulouse a été vécu comme la deuxième catastrophe, quoi. Hein, parce que c'est quand même un événement qui a marqué, qui a choqué la ville. Un nombre très important de gens. Bon, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, mais un tiers de la ville a été sinistré. Et c'est un événement qui dure encore. Voilà. Le procureur de la République a fait appel, mais bon, c'est le seul à suivre. Mais...
Juste noter un effet du syndrome de Stockholm. Avec la satisfaction des salariés de l'entreprise de voir que leur directeur n'était pas condamné. Ah. Moi j'appelle ça du syndrome de Stockholm.
Vraiment?
Ah oui. C'est les seuls qui enfin les seuls, alors, je sais pas combien, il n'y a pas d'éléments statistiques, mais les seules réactions qui étaient satisfaites, c'était celles de salariés d'AZF. Et effectivement à Toulouse, je sais qu'il y avait eu des fractures dans la société toulousaine entre les salariés de l'entreprise qui étaient plus ou moins solidaires, enfin en tout cas en décalage, et qui défendaient le fait que leur usine puisse rester dans le centre-ville. Alors il y a d'un côté la défense de l'emploi, mais je pense que aussi il y a de... Bon, c'est le terme de syndrome de Stockholm n'est pas le bon, mais il y a un petit peu quelque part. Je pense qu'il y a un peu le fait qu'on a fait ça toute notre vie, on en a été fiers, il n'y a pas de raison de le remettre en cause. Hein.
Ouais. Parce que j'ai beau monter, ça ne monte pas.
Voilà. Non. J'ai essayé de justifier un petit peu le syndrome de Stockholm en disant qu'effectivement, ces salariés qui avaient eu l'impression, enfin, qui avaient été fiers toute leur vie de faire ce travail, quelque part, et qu'ils n'avaient pas remis en question, le moment où ça pétait, prenaient ça comme une cause extérieure et ne se remettaient pas en cause.
Ok. Petite musique, peut-être ?
Vas-y, vas-y.
Donc hors du car, nous sommes tous allés voter. Pensant bien qu'à l'Assemblée, on fait les lois pour l'équité. Nous sommes donc sur hors du car, les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Barataclao,
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 Barataclao. La France d'en haut, celle d'en bas, celle du centre et des côtés. On nous dit vous vous débrouillez, on va vous décentraliser, vous serez bien sécurisé, les effectifs seront doublés et les dispositifs musclés. Et pour ceux qui veulent renacler, on leur promet de les boucler. Ainsi parlent ceux qui tiennent les clés. Faut dire qu'ils se sentent encerclés dans leurs immenses propriétés. Et où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour les quitter. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao,
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 Barataclao. L'histoire se passe à notre insu, dans les salons les plus cossus, les décisions les plus values, et tout ça finit dans la rue. On jette l'eau du bain avec l'ONU, voici la GCS et toute la clique. Mater le service public, on dit qu'il est caduc, inique. Pour les libéraux les plus cyniques, tout passe par l'économique. Comme on dit qu'on connaît la musique, il nous crée des sigles qui compliquent. Pour que le guidam n'y comprenne quick, tout ça finit par laisser quoi. Le temps est bien à l'argent roi. On dit que l'argent c'est du temps, on n'a plus le temps de prendre le temps. Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao,
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 Barataclao. Voyez-vous ces donneurs de leçons qui répondent à toutes les questions, qui approuvent la surproduction sans s'embarrasser de la pollution. Y'a plus d'écrevisses dans le ruisseau, les orchidées se sont fanées, les bouchons vierges sont en plastique, et l'océan c'est fantastique, à condition que tu l'astiques. Ici-bas, rien n'est vraiment plus drôle, les fêtes locales c'est du pétrole, l'amour est passé mon ami, on ne peut pas l'emprisonner, comme un piaf déterritorialisé, son chant dans le vent alisé. Mon accent tout à coup s'est changé au contact de notre étranger. Et même si Sarko, et même si ça recommence, mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour éviter. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez, car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Rumba la clown.
Vous êtes bien sur la Quai des Ondes 90.10 et vous écoutez l'émission HAIRA animée par le cercle Jean Barulet de la Fédération Anarchiste. Nous abordons la troisième partie de l'émission et c'est André qui va nous parler d'un ouvrage.
Bien, il s'agit d'un petit livre de 112 pages d'Édouard Jourdain qui a pour titre « Proudhon, un socialisme libertaire ». C'est édité chez Michalon. Édouard Jourdain est doctorant en sociologie et membre du collectif de la revue anarchiste Réfraction, dont le numéro 23 vient de sortir. On en parlera une autre fois. Bon, pour l'éphéméride annuelle, je ne sais pas si on dit ça, rappelons que Proudhon est né en 1809. Ça fait 200 ans. Donc c'est donc un petit livre qui tente une approche de la pensée de Proudhon, entreprise difficile parce qu'il y a là un penseur paradoxal et pas tellement facile d'accès, pour nous peut-être. Avec des formules provocatrices comme « Qu'est-ce que la propriété ?» C'est le vol. Dieu, c'est le mal. Cela dit, Proudhon n'était pas athée, et ses positions sur la propriété ont été des plus nuancées. On lui a reproché d'avoir produit une œuvre très contradictoire où tout un chacun s'y retrouve dans un éventail qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche. À quoi Proudhon peut répondre que c'est la réalité qui est contradictoire. Et Proudhon refuse de se tenir dans le juste milieu de la médiocrité. Car Proudhon est révolutionnaire, anarchiste même. Il fut en effet le premier à employer de manière positive le terme « anarchiste ». Il affirme ainsi en 1849 dans La Voix du Peuple que le plus haut degré, alors je cite, « le plus haut degré d'ordre dans la société s'exprime par le plus haut degré de liberté individuelle. » En un mot, par l'anarchie. Il est anarchiste, mais socialiste. Il y a des anarchistes qui ne sont pas socialistes. Pas socialiste utopique, à la façon des Fourier, des Saint-Simon, car Proudhon combattra tous les systèmes de projection sur l'avenir composés de toutes pièces. C'est sa formule. Comme le plus damné mensonge qu'on puisse proposer aux hommes. Mais socialiste scientifique, oui. Marx lui-même écrira dans la Sainte Famille qu'avec « Qu'est-ce que la propriété ?» entre parenthèses, on vient de rééditer « Qu'est-ce que la propriété ?» en livre de poche. Qu'avec « Qu'est-ce que la propriété ?» Proudhon a posé pour la première fois la possibilité d'une véritable science de l'économie et que l'ouvrage est un manifeste scientifique du prolétariat français. C'est Marx qui le dit. D'après Édouard Jourdain, la pensée de Proudhon, consciente de la complexité du réel, se déploie sur trois lignes de force qui peuvent faire l'objet d'une critique systématique. 1. L'économie politique avec la propriété capitaliste qui aliène le travailleur. 2. L'État qui s'approprie la puissance publique par la force en cantonnant le citoyen à sa sphère privée. Sont critiqués dans le tas le système représentatif, le contrat, la loi, etc. En 3, la religion, ou toute idéologie, qui au nom d'un absolu, justifie tout système reposant sur une transcendance quelconque. Cette critique systématique entend redonner toute sa puissance au droit, afin que ce dernier se rapproche au plus près de la justice. Alors je cite Proudhon, « Pour qu'il y ait société, entre des créatures raisonnables, il faut qu'il y ait engrenage réciproque, ce qui ne peut se faire qu'avec l'aide du principe mutualiste du droit, ce qui autorise à dire que la philosophie de Proudhon est une philosophie du droit avec pour base la justice. La justice, vous allez dire, mais pour Proudhon, c'est une métaphysique en action, donc la justice est l'axe fondamental de la philosophie de Proudhon. C'est une force spirituelle sur laquelle repose l'ordre humain. C'est une manifestation immanente, je cite, de la conscience. Réalité et idéalité, fait et idée s'engendrant mutuellement. Donc l'idée avec ces catégories surgit de l'action et doit revenir à l'action. Cette pratique provient des êtres collectifs, je cite, être collectif, en association, et leur permet d'exercer leur puissance avec d'autres êtres collectifs pour ainsi transformer la nature, le monde. Mais ces puissances sont conflictuelles. Il s'agit de les équilibrer, non de les anéantir. L'approche de Proudhon se fait par sa dialectique des antinomies ou dialectique sérielle, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui n'est en rien la dialectique hégélienne, thèse, antithèse, synthèse, mais qui établit un équilibre des puissances. Alors ainsi, découvrir une série, c'est apercevoir l'unité dans la multiplicité. Je cite encore. La multiplicité peut sombrer dans le chaos en l'absence d'unité. Mais l'unité, en voulant tout ordonner, sans que rien ne lui échappe, en bannissant tout conflit, devient totalitaire. Multiplicité et unité sont donc indispensables pour que les forces s'équilibrent dans un antagonisme fécond. D'où la notion de progrès chez Proudhon. La synthèse hégélienne en détruisant thèse et antithèse conduit à la dissolution de toute individualité. Elle détruit la pluralité du réel. Elle est gouvernementale. La justice est aussi en lutte antinomique avec les idéologies prônées par les religions de toutes sortes, de l'idéalisme de Platon au messianisme prolétarien de Marx, en passant par le christianisme ou l'idéologie capitaliste. Il y a ainsi un mouvement et possibilité de progrès. Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien tout compris tout ce que raconte Édouard Jourdain, en particulier quand il est question de sa théorie du droit de la force, là j'ai calé, clé de voûte de ce qu'il nomme la raison collective. Alors on pourrait continuer à parler de tout ça avec la réflexion sur sa vision de la guerre et de la paix. Édouard Jourdain a écrit un autre bouquin sur Proudhon, Dieu et la guerre. On pourra en reparler. C'est-à-dire sur le conflit par excellence et l'équilibre des antinomies. Mais, alors sans pour autant clôturer, car le temps m'est compté, ça va, disons que la pensée de Proudhon débouche sur la notion de fédéralisme intégral, tant politique, économique que social. Le Monde libertaire, que lit consciencieusement Phil, publié il y a peu et assez régulièrement des textes de Jacques Langlois, je sais pas, ça n'a pas dû vous échapper, qui est un spécialiste de Proudhon. Moi j'avais noté entre autres, mais je suis plus sûr qu'il a été publié dans le Monde libertaire, un texte de Jacques Langlois analysant les problèmes de la violence chez Proudhon. Alors d'ailleurs, toutes ces lectures un peu difficiles m'amènent à penser que nous pourrions organiser des sortes de cours pour les approfondir, c'est-à-dire de créer quelque chose qui pourrait ressembler à une université populaire. Qu'est-ce que t'en dis, François? Qu'est-ce que vous en pensez tous?
De toute manière, c'était un des objectifs du cercle Jean Barhuet, de faire de l'auto-formation.
Beaucoup de sueur au front.
Et de partager,
bien sûr.
Très bien. Philippe, Philo, pardon.
Oui, bien la dernière fois nous avions parlé donc d'un procès intenté contre Sakina parce qu'elle avait appelé au boycott des produits israéliens. Voilà, tant qu'Israël et ses produits ne sont pas conformes au droit international. Et donc je voulais à la fois bien vous faire une petite histoire du boycott pour replacer ce terme-là dans le, en prenant bien une définition issue du guérilla kit de Morjane Baba, ruse et technique des nouvelles luttes anticapitalistes. Donc elle nous présente ainsi le boycott. Le boycott au sens étroit est le refus d'acheter les marchandises d'une entreprise ou d'un pays. Au sens large, c'est la rupture de toute relation avec une personne, un organisme ou un État. Le terme vient de Charles Cunningham, boycott, intendant d'un grand domaine foncier en Irlande à la fin du XIXe siècle. Face à son refus de baisser les loyers, la Ligue agraire irlandaise appela les habitants de la région à cesser toute relation avec lui. Les paysans cessèrent de travailler sur ses terres, les commerçants refusèrent de l'approvisionner, et son courrier ne fut plus acheminé. il céda et dut s'exiler. Popularisé par Gandhi, le boycott des produits britanniques en Inde, et par Martin Luther King, le boycott des bus ségrégationnistes Montgomery, cette forme d'action appartient au répertoire de la non-violence. Comme technique de la lutte syndicale, le boycott peut renforcer l'effet d'une grève, l'objectif étant de faire baisser les ventes et en même temps que l'on entrave la production. Lors de la grève d'élus en 2001, il consiste à bâtir une sorte de front commun entre salariés et consommateurs pour faire pression sur la direction. Au-delà du coût économique direct, le boycott tire son efficacité du péril qu'il fait subir à l'image de marque de l'entreprise. C'est ce qui a fait reculer la compagnie Shell face à Greenpeace en 1995. Shell était accusé de vouloir saborder une plateforme pétrolière dans la mer du Nord au mépris des conséquences sur l'environnement. L'arme s'est aussi avérée efficace contre certains régimes politiques, le cas le plus célèbre étant celui de l'apartheid. Lancé de l'intérieur par les mouvements de résistance sud-africains, l'appel au boycott a poussé les États à prendre des mesures d'embargo et pris le gouvernement de Pretoria en étau jusqu'à sa chute. Voilà. Donc dans cet ouvrage, les liens sont faits avec les mots de grève, de commerce équitable et de naming and shaming, qui veut dire nommer et dénoncer, si je crois bien.
Est-ce qu'on parle des mouvements aux États-Unis de César Chavez, le boycott du raisin, de la salade? Parce que ça, c'est aussi un mouvement syndical qui a pratiqué le boycott, assez important.
Alors là, dans la définition du boycott, il n'y a que ça. Donc là, il y a d'autres formes de lutte. Mais là, c'était juste le chapitre concernant le boycott, et donc il ne parlait pas de cette action. Mais le livre ne prétendait pas faire l'objectivité des actions menées, mais plutôt des formes d'action. Et donc, il illustrait un certain nombre d'exemples. Donc, pour faire le point sur le soutien, je vais peut-être vous lire le nouveau communiqué de la section de LDH, donc de Sakina, qui est militante, qui est poursuivie. Et je vous donnerai juste le rendez-vous après. Donc voilà, la section de la Ligue des droits de l'homme de Talence et les associations de soutien ont été stupéfaites d'apprendre qu'en France, un procureur de la République ait pu accepter l'introduction d'une plainte pour incitation à la haine raciale contre les Israéliens à l'encontre d'une militante défendant les droits de l'homme en Palestine occupée, Madame Sakina Arnaud. En effet, le seul motif est qu'elle prône le boycott contre des produits israéliens importés dans des conditions illégales au regard du droit international. Les organisations qui ont déposé cette plainte en arrivent à confondre intentionnellement le racisme avec la critique et le refus de soutenir économiquement un État étranger, en l'occurrence Israël, parce que la politique de ce pays ne respecte pas les droits internationaux, entre autres ceux du peuple palestinien. À ce que nous savons pour l'instant, des associations de partis civils, il s'agit du Secours français des sinistrés israéliens, du Conseil des communautés juives d'Île-de-France, du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, toutes trois ayant le même président, Sami Gozlan, et d'Avocats sans frontières de Gilles William Goldnadel, connu pour ses plaintes entre autres contre Daniel Mermet et contre Edgar Morin. Ces associations ne poursuivent pour l'essentiel qu'un but, celui d'entraver l'action des associations qui s'opposent ici en France à la politique d'Israël, qui pour cela a instrumentalisé la justice française. Cette campagne politique d'action directe non violente appelée BDS, boycott des investissements sanctions, initiée par les organisations palestiniennes elles-mêmes, s'inspire du boycott organisé contre l'apartheid d'Afrique du Sud. Nous invitons les associations, qu'elles soient ou non d'accord avec cette campagne internationale, à déclarer qu'elles pensent que cette campagne n'a rien à voir avec l'antisémitisme, comme essaient de le faire croire ses soutiens de la politique israélienne, dès que l'on critique cette dernière, et donc qu'elles soutiennent notre adhérente. La situation devient inquiétante quand on apprend qu'à la suite d'un hasard malheureux de l'informatique, le président de la 5e chambre du tribunal correctionnel de Bordeaux s'apprêtait à juger cette affaire, en présence des requérants, mais sans la prévenue ni son avocat, lesquels avaient été assurés qu'ils n'étaient pas inscrits à l'audience et évidemment il n'était pas en possession du dossier à charge. La manipulation n'a pu réussir grâce à la présence de l'esprit de Maître Landette et du responsable de l'LDH de Talence, Beglevin Abdornon, qui se sont rendus au tribunal. Ainsi, l'avocat a pu faire repousser l'audience au 13 janvier 2010 à 14h. La libre expression politique, le droit à la critique de la politique d'un État étranger, la défense des droits des Palestiniens, la liberté de choisir l'origine des produits que nous consommons sont ainsi menacés en France si ce procès devait donner raison aux plaignants. C'est pourquoi chacun doit se mobiliser pour obtenir que les organisations requérantes soient déboutées. Voilà le communiqué, et donc la prochaine réunion du comité de soutien se tiendra lundi 7 décembre à 18h30 au Café de l'Horloge à la barrière de Talence, qui s'appelle d'ailleurs la barrière Saint-Jeunesse. Voilà. ben voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce procès, si ce n'est qu'on peut évidemment vous inviter à soit participer au soutien, soit à venir le jour du procès, mais on nous en reparlera d'ici le 13 janvier 2010 à 14h, qui est un mercredi. On peut espérer que lundi aussi, il y aura des invitations à d'autres formes de soutien qui seront proposées, comme des pétitions ou autres.
Petite musique,
musique.
Pour reprendre le souffle.
Étrange, étranger, Kabyle, de la chapelle et des quais de Javel, homme des pays lointains, cobaye des colonies, doux petit musicien, soleil adolescent de la porte d'Italie, Boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes, trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée. Polac du Marais, du Temple, des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco, et déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclave noir de Fréjus, tiraillé et parqué au bord d'une petite mer, où peu vous vous baignez. Esclave noir de Fréjus qui évoquait, chaque soir, dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfant du Sénégal, dépatrié, expatrié et naturalisé. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or, fait de papier plié. Enfant trop tôt grandi et si vite en allé, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rivières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étrange, étranger. Vous êtes de la ville. Vous êtes de sa vie. Même si mal en vivez. Même si vous mourrez.
Vous écoutez La Clé des Ondes, 90.10, et c'est l'émission Achaïra. Voilà, l'émission Achaïra qui s'approche de la fin. Peut-être des réactions sur des points d'actualité.
Moi, oui. Je voudrais juste signaler le dernier numéro de Ciné Hebdo, hein, qui est consacré au Conti. Bon, je sais pas si c'est un numéro spécial. C'est hebdomadaire, je sais pas si on peut dire humoristique ou oui, un peu radical, un peu géant. Il me semble que pour moi, c'est la première fois que je lis un canard comme ça, où tout le numéro est consacré à une lutte syndicale. Alors, il y a en plus, il y a un peu d'ironie parce que tous ces ouvriers, ouvrières des Conti, il semblerait qu'ils aient tous, ou plus ou moins, voté pour Sarkozy. Et puis maintenant, voilà. Bon. Donc, je vous recommande de lire cet exemplaire. Il est sorti cette semaine. Ciné Hebdo. Spécial Conti.
Encore, ils se plaignent pas, on entend souvent effectivement on a entendu plusieurs fois à la télévision, mais pourtant on a accepté qu'on nous gèle nos salaires, on a accepté qu'on augmente notre temps de travail, on a accepté, et puis maintenant, avec tout ce qu'on a fait pour eux, ils nous virent. Quand même, on ne comprend rien, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Peut-être qu'ils n'ont pas compris comment ça marche. Moi, je voulais réagir sur le, ça très rapidement, sur quelque chose d'actualité, sur le j'ai entendu des mots très très forts là de viol de la démocratie par quelqu'un qui d'habitude est pas douillé, d'autres qui parlaient du temple de la démocratie qui était saccagé, et c'était juste parce qu'il y avait des gens de l'histoire qui avait fait de l'escalade, de la barappe à l'intérieur. Et en même temps, ces gens qui ont l'habitude d'être assis pour parler surtout, puisque le nouveau régime leur donne plus beaucoup, trop de, ce n'est qu'à avaliser des textes. Et donc, ils n'hésitent pas à dire que, bien le, par exemple, un des députés qui est Noël Mamère, il faudrait lui retirer son mandat, parce que lui, il ne s'est pas comporté d'après eux correctement. Et donc ça veut dire que ce temple de la démocratie, en même temps, il est capable de dire quelle est la façon dont les électeurs qui sont censés représenter certains sont, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, ils sont pas à une contradiction près sur leur mandat, sur leur mandant, et surtout comment ils ont une vision un peu on va dire religieuse, quoi, quelque part. Quand le temple de la démocratie, ça veut dire c'est aussi ces formules-là où il y a le cérémonial, et donc en soi l'objet de la démocratie, il suffit qu'il ait un lieu. Ça veut dire il n'y a pas de, on voit bien comment il y a une,
oui, mais des appropriations. Enfin, ces manifestants, ils n'ont pas été élus, ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été élus, quoi. C'est pas démocratique, c'est de l'action directe, je sais pas.
Ça doit être de l'action directe, mais ils ne prétendaient pas plus non plus, d'ailleurs, qu'une interpellation. Il semble que le fait même d'être interpellé, ça soit, on en est à ce niveau-là, une démocratie qui est tellement fragile, que le fait d'être interpellé la remet en cause sur ses bases. Elle est tellement, quelque part, solide sur elle-même, que le fait d'être remise en question comme ça, de façon imagée, globalement, enfin, quelques bandes de rôle, je veux dire.
Moi, je trouve amusant qu'une dame fasse de la varappe dans ce lieu, plutôt que de lancer une bombe. Mais
le fait de se suspendre à une corde est devenu un acte violent.
C'est étrange,
mais c'est le cas.
C'est du terrorisme.
Et ça remet en cause les bases de la démocratie.
Il faut renforcer le système de détection dès le lendemain, surtout que la dite dame aurait introduit la corde en se déguisant en femme enceinte, d'après ce que j'ai compris.
On va demander des preuves, de montrer le nombril des femmes enceintes, pour moi, être sûr qu'elles ne cachent pas des cordes dangereuses. Voilà, enfin, faut pas trop tirer sur la ficelle non plus, mais bon. Ou sur la corde.
Est-ce que vous avez envie d'un petit texte de Stieg Dagerman?
Oui, vas-y, vas-y.
Oui, oui.
Allez, allez.
Ça peut vous plaire?
Allez. Oui, oui.
Allez.
C'est un texte qui est tiré d'une nouvelle édition de La dictature du chagrin et autres récits amers. C'est édité chez Agon 2009. C'est un texte pour Noël quasiment. Pourquoi faut-il que les enfants obéissent? Disons qu'il est 7 heures du soir. Dehors, il fait nuit noire. Certains animaux sont en train de s'endormir, mais d'autres s'éveillent et s'en vont rôder dans la forêt. Je vous rappelle que ça se passe en Suède. Tu viens de construire une tour très haute sur le sol de la cuisine. Elle ne peut pas monter plus haut. Elle s'effondrerait. C'est pourquoi tu vas te poster à la fenêtre et regarde un camion qui dort et une étoile qui est presque rouge. À ce moment, ta maman t'appelle et te dit « Olé ». Olé, c'est un prénom en suédois, hein. On peut dire Pierre. Alors, Pierre, il est l'heure d'aller au lit. Mais c'est quand même étrange, tu n'es pas fatigué le moins du monde. Tu pourrais rester certainement debout toute la nuit. Tu serais même capable d'aller jusqu'en Chine sur les mains, si seulement on t'en laissait le temps. Mais non, il faut que tu obéisses. tu restes quand même à la fenêtre un petit moment, tout petit. Et soudain, tu vois un avion qui arrive dans ta direction, par-dessus les toits. Tu vois son feu vert et son feu rouge et tu dis « Oh, quand je serai grand, je serai aviateur. Ah, pouvoir aller là où on veut et ne pas être obligé d'obéir. » Mais, vois-tu, même un pilote doit obéir. Ce soir, il se dit « Peut-être je vais aller jusqu'au pôle Nord, donner à manger aux ours blancs. » Mais impossible. Il faut qu'il aille au Danemark avec ses passagers. Il est obligé d'obéir à ses passagers. Un autre soir, il peut lui arriver de penser « Je vais monter tout droit vers le ciel et puis faire un piqué. » Mais impossible également. Il doit obéir à son avion. Il se peut que celui-ci ne supporte pas des acrobaties de ce genre. Et même quand il atterrit, il ne peut pas se poser comme il veut. Il doit obéir aux gens qui se trouvent à terre, à l'aéroport. Il doit obéir à tous les autres avions, au sol et dans le ciel. Et s'il n'obéissait pas, il pourrait s'en suivre un effroyable accident. Ta maman, elle aussi, doit obéir. Obéir à qui? Eh bien à toi, par exemple. Tu lui dis « j'ai faim ». Cela veut dire « donne-moi à manger ». Et ta maman te donne à manger. Elle t'obéit. Ou bien tu entres dans un magasin avec ta pièce de monnaie et tu dis « je voudrais un soda ». Et on te donne un soda. La marchande t'obéit. Ou bien tu traverses la rue sur un passage clouté. Les voitures s'arrêtent. Elles t'obéissent. Une autre fois, elles ne s'arrêteront pas. Alors ce sera à toi de leur obéir. Et ainsi, tout le monde obéit à tout le monde. Tu obéis aux autres pour que les autres t'obéissent. Et maintenant, c'est le soir et l'aviateur obéissant disparaît rapidement derrière les nuages. Mais toi, tu quittes la fenêtre et tu vas te coucher. Tu obéis à ta maman pour qu'elle puisse t'obéir. Et sur le sol de la cuisine, il y a toujours la tour que tu as édifiée. Tu sais que toutes les tours voudraient monter jusqu'au ciel, être plus hautes qu'elles ne le sont. Mais il faut qu'elles obéissent à l'architecte. Sans cela, elles s'écrouleraient. C'est Stig Dagerman dans La dictature du chagrin et autres récits amers.
La mission, qui rappelle les rendez-vous. Ah oui.
Venir, venir. Enfin, moi j'en ai deux proches, mais quand même. Oui, mais déjà de demain, vendredi 4 décembre, là, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous à 11h dans le cadre de la des actions du mouvement pour le collectif pour les droits nouveaux, qui a mené des actions du 23 novembre jusqu'au 5 décembre. Et donc, aujourd'hui, c'était un rassemblement sur la santé à la Caisse primaire Sécurité sociale Place de l'Europe. Et demain, vendredi 4 décembre à 11h. C'est une action de réquisition et donc le rendez-vous sera 21 rue Saint-Cric, près de la place de la Victoire, au local d'AC Gironde. Et donc l'invitation évidemment importante à tous les mouvements, enfin à ce qui est du monde, c'est tous ceux qui pourront, samedi 5 décembre à 15h, place de la Victoire à Bordeaux pour une manifestation conclure un petit peu cette mobilisation et éventuellement envisager d'autres par la suite. Voilà, samedi 5 décembre, 15h, place de la Victoire, pour agir contre le chômage, les précarités, le licenciement. Je sais qu'à Paris, il y a eu des occupations de différentes... Pôle emploi, un certain nombre de mouvements.
Dans plusieurs villes aussi.
Dans plusieurs villes, oui, différentes occupations. A priori, le rendez-vous, c'était quand ça? C'était à la caisse d'allocation familiale, a priori, il y avait la police qui attendait.
Je crois que c'est à Brest où ils ont occupé l'hôtel de ville, la police est intervenue pour les déloger. Nantes, Rennes, etc. Paris.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Samedi 12 décembre.
Vendredi 11.
Non, vendredi 11. Hein.
Vendredi 11.
Place à Stalingrad, à côté du Lion Bleu, je pense, à 19h30. Tram A, direction Floirac, rive droite.
Donc une manifestation pour lancer la campagne contre les centres de rétention administrative.
Pour la fermeture inconditionnelle des centres de rétention. Donc.
Ensuite,
donc le 12 décembre à 11h, il y a le rassemblement par rapport à Copenhague, donc qui a lieu samedi donc. Ah oui, samedi 5, j'ai oublié, à 12h place de la Comédie, et samedi 12, ça sera à 11h au miroir d'eau par rapport à Copenhague. Et à 15h, donc il y a un rassemblement, donc place de la Victoire du CRSP, et à 15h, place de la Bourse du collectif des travailleurs sans papiers. Voilà, a priori, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, à 17h, le débat avec Mathieu Rigouste à l'Athénée Libertaire, le 12 décembre, donc sur l'ennemi intérieur. Voilà. Voilà, et donc j'avais dit aussi le 7 décembre, la réunion de comité de soutien boycotteur et le programme de...
les auditeurs vont s'y retrouver dans tout ça.
Non, il n'y a pas de... c'est vrai, bon, on les a déjà dites.
Bien, voilà, prochaine émission...
dans deux semaines.
Ce sera le 17 décembre.
17.
Oui, je dis 17 décembre. Mm-hmm. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Faites des beaux rêves.
Bonsoir.
Bonne année.
Oh,
casa è di chi l'abita, dire chi lo ignora, il tempo dei filosofi, il tempo dei filosofi.
Casa di chi l'abita, dire chi lo ignora, il tempo dei filosofi, la terra di chi la lavora.
Addio mia bella, casetta di Dio, madre amatissima e genitor, e genitor. Io pugno intrepido per la comunità, come Leonida sa. Casa di chi l'abita, vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi.
Casa di chi l'abita, vile chi lo ignora, il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora.
Che il Vaticano andesse in fiamme, il Papa ne bruciasse e le melemme, e il Papa ne bruciasse e le melemme. Bruciasse preti in corpo alle sumame. E quando voglio io, non voglio preti, non voglio preti e frati e pater nostri. Non voglio preti e frati e pater nostri. La voglio la bandiera dei socialisti.
Avec les brigands, les salauds, c'était l'hiver. Paraît que t'étais un prostitué, lui dit un gars dans sa chambre. Tu vas pouvoir nous réchauffer, plus pas de manière. N'ayant plus le moral. Si tu veux, écris-moi, je serai ta liberté. Il a fallu bien des années avant que Léo soit relâché, mais un beau jour c'est terminé, on le libère. Il va pouvoir la rencontrer, celle qu'il appelle ma dulcinée, il va la couvrir de baisers, il fait le fier. Il croise sur le trottoir un cercueil de bois noir, salue les hommes en pleurs et dérobe une fleur. Il arrive excité, les bras tout essoufflés, mais celle qu'il a aimée, il vient de la croiser. Ce petit appartement, il n'y avait pas grand chose d'important, mais sur une table, deux instruments et une lettre. Mon petit Léo, gâche pas ta vie, fais ça pour moi, je t'en supplie. Prends cet archer, cette scie, deviens honnête. Dans la rue, il s'installe, joue de la scie musicale, mais il joue tellement mal que même les sourds en parlent. Les voisins excédés, partant de bonne volonté, un jour furent obligés de le chasser du quartier. Thank you. puis un jour dans les bistrots, il se passait rien de très nouveau. On a pu lire dans les journaux de Pénivert. On a retrouvé sous un camion le corps d'un pauvre vagabond, les bras sciés et un archer, un mystère. Si encore de nos jours, on entend ce refrain, c'est que du fond de sa cour un jour, un musicien, sans s'en douter du reste, cherchant un air nouveau, a écrit pour orchestre les hurlements de Léon. At the age of five, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man.
La clé des ondes.
séduisant, inspiré, tordant, génial, insoutenablement jeune pour mon âge, bien qu'un peu nul au col. Au pied d'un gratte-ciel, au bord d'un précipice, au fond d'une piscine vide, encerclée par les hyènes. Toujours entre deux gares, deux départs, deux envies, deux extrêmes, deux amours, deux haines, entre ce qui fait du bien, du mal, la terre et le ciel, les hauts et les bas, la vie quoi, le bordel. Stop! On the line! Get up. Watch for your camera and follow the line. Stop. On the line, stick together, get up. Watch for your camera and follow the line. Un hélicoptère en le pavé smoking sans boussole.
qui est devenu Lady Sunshine. Dans les bras d'une ingénue qui me trouve carrément phénoménal, échevelé, troublant, fatal, irrésistiblement beau pour mon âge, quoique un peu nul au squash. À bord d'un ovni, au bord de la crise de nerfs, avec un marteau piqueur dans une soufflerie de verre, toujours en train d'aller, un retour de proposition, deux amours de haine, entre ce qui fait du bien, du mal, la terre et le ciel, les hauts et les bas, la vie quoi, le bordel, stop. On the line, take us together. Hey, watch for your camera. And follow the line, follow the line. Follow the line, follow the line.
Retrouvez la clé des ondes sur internet en faisant www.lacdo.org.